cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jean d'Arc, le 14 mai 1988.
Pose la question, vous savez qu'à partir d'un certain moment, c'est avec Leibniz du reste, que la détermination a été considérée comme une limitation, comme une limite. Et c'est très vrai que la détermination de la quantité est une limite. Et il y a deux choses à distinguer. Très important par rapport à la mentalité constante des gens et même des chrétiens. Comment se fait-il que dans toute une série de personnes, quand l'Église proclame un dogme, on n'est pas content? On considère que la proclamation d'un dogme, qui est tout simplement une détermination, qui devrait provoquer une très grande joie, puisque ça nous permet d'aller plus loin dans la vérité. Ça offusque toute une quantité de mentalités qui considèrent que dès qu'on proclame un dogme, donc qu'on détermine quelque chose, c'est une limitation. Et ceci, je prends ça comme exemple, ce serait dans une quantité d'autres domaines. Si on dit, voyez, si on dit qu'on est dans la recherche, c'est très bien, parce qu'on n'a pas encore déterminé. Si on dit qu'on découvre la vérité et qu'on détermine, les figures s'allongent. On n'aime pas la détermination. C'est un fait. Et dans le fond de nous-mêmes, dans la mesure où nous sommes de notre siècle, nous sentons ça très bien. Je crois qu'il y a cette confusion qui s'est faite avec Leibniz entre détermination et limitation. Pour Leibniz, déterminer, c'est limiter. Alors d'où ça vient? C'est intéressant à noter ça. Dans le domaine de la quantité, toute détermination est une limite. Puisque la quantité, en l'actuant, on la limite. On la divise. La quantité en puissance est infinie. Et donc l'actuation, tout acte détermine. L'actuation de la quantité est une limitation. Vous voyez, c'est donc un vieux reste terrible de confusion qui est en nous et qui provient qu'on regarde tout sous le point de vue de la quantité. C'est l'ingérence du domaine quantitatif dans le domaine qualitatif. Parce que l'aspect spécification de l'intelligence, c'est qualitatif. C'est pas du tout matériel. C'est pas le conditionnement. La quantité conditionne l'objet spécifique. Et l'objet en spécifiant conduit vers la fin. Tandis que le conditionnement ne nous conduit pas à la fin. Or, tout conditionnement est une limitation. Toujours. Le conditionnement nous limite. Tandis que l'aspect de l'objet, de la détermination spécifie, conduit vers l'acte qui finalise. Faites un tout petit examen de conscience philosophique. Et vous verrez que constamment, en nous, il y a cette confusion. Qui est très ancienne. Leibniz la met en pleine lumière, mais je crois que c'est la confusion entre le conditionnement et la finalité. comprends ça parce que il faut essayer de dépister dans tous les domaines cette confusion du conditionnement et de la finalité, du conditionnement et de la détermination. Parce que c'est ça qui nous enlise. Et c'est ça qui conduit à l'angoisse. Je suis persuadé que dans le fond de toute angoisse, il y a une confusion entre détermination et limitation. Donc entre spécification et conditionnement. Et que c'est ça qui nous conduit à l'angoisse. Qui nous inhibe, si vous voulez. Et qui conduit progressivement à l'angoisse. Alors si on veut se libérer de l'angoisse, on peut le faire quand on n'est pas angoissé. On peut prévoir. Eh bien, c'est essayer de déterminer d'une manière beaucoup plus nette dans notre vie intellectuelle, dans notre vie humaine tout court, le domaine du conditionnement et le domaine de la spécification et de la finalité. C'est très important. De fait, j'ai mis à la suite de la qualité de la quantité, principe d'identité, principe de similitude, principe d'égalité, pour vous montrer que ce ne sont pas des principes. Il n'y a pas de principe d'identité. Quand vous perdez votre identité, ce n'est pas un principe d'identité. A égale A. Tautologie. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez d'un principe d'identité ? Ceci est ceci. Je suis moi-même. À moi-même. C'est qu'on se dédouble pour arriver à l'unité. Vous pouvez regarder à quel moment le principe d'identité s'est implanté en philosophie. Vous ne le voyez pas chez Aristote, le principe d'identité. C'est la substance qui fait l'unité. Elle fait l'unité. Mais ce n'est pas un principe. C'est une conséquence de la substance. Comme le principe de similitude, c'est une conséquence de la qualité. Comme le principe d'égalité, c'est une conséquence de la quantité. Donc, c'est important de mettre en parallèle ces diverses conséquences. Et pour montrer que ce n'est pas un principe. Puisque c'est une relation. Et la relation, comme nous allons le voir, n'est pas un principe. Qui dit principe dit quelque chose d'absolu. Qui dit relation dit quelque chose de relatif. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, c'est des vieilles confusions qu'on porte en soi. Qui sont très lourdes, hein, de conséquences. Une loi est une relation. La loi n'est pas un principe. C'est pour ça qu'on peut aller de loi en loi et de relation en relation. C'est ce que fait la science. La loi est une relation. Tandis que le principe est un absolu. La philosophie cherche des principes, la science cherche des lois. La science ne saisit pas, la science moderne, à base, à partir des mathématiques. Très très important de saisir ça. Alors c'est ce que nous allons voir maintenant, le domaine de la relation. Et dans le domaine de la relation, il y a la loi. Et dans le domaine de la relation, il y a le principe d'identité. Et dans le domaine de la relation, il y a le principe de similitude et le principe d'identité pour montrer que ce ne sont pas des principes. Alors, qu'est-ce que c'est que la relation ? Au point de vue de l'être, c'est ça qui m'intéresse, puisque je suis en métaphysique. Les relations au point de vue mondain, on sait très bien ce que c'est. J'ai beaucoup de relations. J'ai des grandes relations, des relations très importantes. Dans le domaine de l'armée, je peux atteindre le premier. Dans le domaine de l'État, je peux atteindre le premier. Je suis en relation. Relation amicale. Et une carte de visite mondaine mettrait toutes les relations. Première, on l'établirait. J'ai le bras long. Est-ce que je peux atteindre toutes les relations? J'ai compris ça d'une façon très aiguë et d'une façon cruelle à la fin de la guerre, où il y avait la débâcle complète. Vu sous nos yeux, je ne dis pas des grands chefs, mais des lieutenants, renverser les autos qui étaient remplis de tous les papiers de l'administration pour pouvoir partir en auto et laisser les pauvres soldats sur le sol et être, par le fait même, voué être prisonnier. Je l'ai vu, sous mes yeux. Et quand je suis arrivé à Toulouse, n'ayant qu'un seul désir, c'est de ne pas être prisonnier. Je n'avais plus rien. Donc il n'y avait que ça à faire. Le prisonnier est toujours un butin de guerre. Ça coûte cher, un prisonnier. Et quand on est libre, ça ne coûte rien. Pour l'ennemi, pour le pays, je veux dire. Quand je suis arrivé à Toulouse, la place du Capitole, la grande place de Toulouse, était sur le mur, remplie de petits papiers, comme les petits papiers à midi. Vous voyez? Remplis de petits papiers, avec des adresses. Un tel, tel endroit. Un tel, tel endroit. Un tel, tel endroit. Et vous voyez le nombre de petits papiers qu'il y avait. Le nombre de relations qui étaient là. Puisque quand vous mettez un tel, c'est une relation. Vous vous référez à tel endroit. Tout le monde était sur les routes, en diaspora. Et les gens regardaient s'ils ne connaissaient pas quelqu'un. C'était très émouvant. J'ai compris ce que c'était que d'avoir beaucoup de relations. Et ce que c'était d'avoir comme relation d'être de tel petit village lié à telle ferme, délogé de sa ferme, plus aucun lieu, plus aucune relation. C'est très émouvant. Et c'était une expérience assez extraordinaire. Il doit y avoir au Liban des choses comme ça. On est délogé, après un bombardement, on est délogé. Après l'invasion, on était délogé. Tout le monde descendait vers le midi. Les gens du Nord, les gens de Belgique, descendaient. Ils recherchaient, s'ils ne voyaient pas, une adresse connue. Être en relation. Alors, c'est évident que les relations, au point de vue humain, ça joue énormément. Et quelquefois, ça joue tellement que vous avez des êtres qui ne sont plus que relatifs. Je crois que les gens de la communication, les journalistes, ne sont plus que des êtres relatifs. Ils n'ont plus de personnalité. Ou leur personnalité dans la relation. Ils ont un très grand pouvoir sans aucune autorité. Le pouvoir, c'est un tissu de relations. Et l'autorité, c'est une chose personnelle qui nous met au service de quelqu'un. Tandis que quand vous n'êtes plus qu'au pouvoir, vous n'êtes jamais au service. C'est très curieux. Le partage des eaux entre la substance et la relation. La substance nous donne notre autonomie. Et c'est pour ça que la personne se définit par la substance. Une substance individuelle. Une substance capable d'avoir son autonomie et de porter les autres. La substance peut être sujet. Elle porte. Si on est sujet, on porte. On porte les relations d'action et de passion. Il faut pâtir. Et la personne est capable de pâtir. Elle est capable d'agir. La relation, c'est juste l'inverse. C'est extraordinaire de voir ça. La relation, je ne dis pas que c'est toute voile dehors, mais presque. Un homme relatif est tout entier tourné vers l'autre. La relation, comme nous le verrons, c'est ad. L'être de la relation, c'est d'être vers, face à face, vers quelqu'un, tourné vers. Étonnant. On est un javelot, tourné, une flèche, tout entière, vers. C'est sa direction qui lui donne son sens. Je vais essayer de comprendre un peu ce que c'est que la relation, ce que c'est que d'être relatif. L'amour nous rend relatifs à quelqu'un. La connaissance permet que celui qu'on connaît, on le prend chez soi. Et quelle différence entre connaissance et amour? La connaissance intériorise. L'amour nous met dans un état extatique, tourné vers l'autre. Dans la connaissance, j'assimile celui que je connais. Et l'assimilation aboutit à quelque chose de substantiel. C'est pour ça que la connaissance est substantielle. L'amour, au point de vue humain, nous met relatif à un autre. C'est pour ça qu'on a tellement de peine d'aimer. Si on a une personnalité profonde, si on est uniquement quelqu'un de relatif, c'est autre chose. Je crois que c'est très important d'essayer de comprendre, puis on va essayer de voir progressivement, ce que représente, dans l'ordre de l'être, cette sorte d'éclatement. Je crois qu'on pourrait dire que la relation, c'est l'éclatement de l'être. Il y a quelque chose comme ça. On n'est plus chez soi. On est tourné vers. Alors ça peut être pour le bien comme pour le mal. Vous voyez bien. La relation en soi est neutre. La substance n'est pas neutre du tout. Le pur relatif est neutre. Et c'est ce qui fait que, quand on est relatif à quelqu'un, on est tout entier tourné vers cette personne. Et c'est cette personne qui nous qualifie. C'est les diverses relations que vous avez qui vous qualifient. Tellement, la relation comme telle est neutre. Très étonnant, ça. Allons même plus loin. La relation, dira le vieux philosophe, c'est l'être le plus débile. J'allais dire que c'est l'être complètement débile. Il faut s'appuyer sur l'autre. Incapable d'avoir son autonomie. Vous êtes débile dans la mesure où vous n'avez pas d'autonomie. Alors soyons débiles pour le Saint-Esprit, et pas pour les autres. C'est la fameuse phrase de Jésus, hein. Prudence du serpent et simplicité de la colombe. La colombe, elle est très débile, toute relative à celle qu'elle aime. Les deux colombes s'aimaient dans l'amour tendre, hein, on voit très bien. Tout entier relative. C'est très beau de voir ça, deux colombes qui se regardent et qui s'aiment. Tout relative l'un par rapport à l'autre. Plus aucune autonomie. Si tu vas à droite, je vais à droite. Si tu vas à gauche, je vais à gauche. Si tu vas tout droit, je vais tout droit. Si tu te lèves dans les cieux, je m'élève dans les cieux. Si tu descends en enfer, je descends en enfer. C'est tout à fait relatif. On suit. Tout entier relatif. La relation met dans l'être une débilité. C'est extraordinaire. L'être qui est stable dans la substance. L'être qui possède une autonomie. La relation met cette débilité dans l'être. Cette chose tout à fait particulière, d'être tout entier tourné vers l'autre. C'est quand même idiot d'être tout entier tourné vers l'autre. Et être entièrement dépendant vers l'autre. J'ai besoin de le toucher. Comment je ne sais plus ce que je suis. Et l'angoisse pousse cette débilité jusqu'au bout. On est angoissé, j'ai besoin d'avoir touché quelque chose. Le petit chien à côté de moi. Si le petit chat disparaît, je ne sais plus où je suis. Je me suis localisé dans le chien ou le chat. Ça arrive, ça. Quand l'angoisse vous prend totalement, vous êtes tout entier relatif. Vous n'êtes plus chez vous. Complètement délogé. Cancer de la relation. Le cancer, c'est une relation au niveau de la santé, au niveau biologique. Le cancer, ça n'est tout relatif. Aucune autonomie. Tous les êtres qui sont comme ça, il y a des êtres qui ne peuvent exister qu'en fonction d'un autre. Ils sont entièrement relatifs. C'est un être débile. Un être tellement débile que le philosophe va pouvoir préciser qu'il y a des relations de raison et des relations réelles, existantes. Et ça, ça n'existe que pour la relation. Vous avez les deux. Vous ne pouvez pas dire ça pour la qualité. Vous avez vu des qualités de raison? Non. Vous avez vu des quantités de raison? Non. Vous avez vu une action de raison? Non. Vous avez vu une passion de raison? Non. Le seul prédicament qui peut être relation de raison, relation réelle, existante. Tandis que vous avez des relations de raison, universel, c'est un être totalement relatif. C'est une relation de raison. Unum ad multa. À saint Thomas. L'universel, c'est l'un vers le multiple. C'est l'un qui provient du multiple. Ex. C'est l'un dans le multiple. Trois manières de regarder la relation. Parce que la relation, quand elle est en elle-même, elle se dédouble. Il y a un triplet. L'unum ad multa, peut-être ex multis, peut-être in multis, peut-être ad multa. C'est extraordinaire. Un vers le multiple. C'est ça, une relation de raison. C'est ça, l'universel. Faut le penser, l'universel. Ça se pense. Comme un objet de raison. Alors là, c'est ici une relation de raison. C'est très curieux, vous voyez. La relation est un être tellement débile qu'il peut être une relation de raison. Une vraie relation. La relation de raison est une relation. Elle va me dire, oh non, c'est rien du tout. Mais non. La seule chose que l'esprit humain peut créer, ce sont des relations. Alors vous voyez comme on l'aime. La seule chose que l'esprit humain peut créer, c'est des relations. Vous ne pouvez pas créer des substances. Vous ne pouvez pas créer des qualités. Vous ne pouvez pas. Vous croyez en faire, mais n'en faites pas du tout. Vous ne pouvez pas créer la quantité. La seule chose que vous faites, la seule chose que vous êtes capable de créer, c'est la relation. Alors vous comprenez qu'on l'aime, ce petit être débile. On est capable de le créer. Des relations de raison, pas des relations réelles. Vous êtes capable de créer des relations de raison. Vous créez l'universel. C'est pour ça que vous l'aimez tant, parce qu'il provient de vous. Comment se fait-il qu'on puisse confondre métaphysique et logique? Occam. Donc, confondre la relation réelle et la relation de raison. Oui, le lieu de rencontre, le lieu de rencontre entre la logique et la métaphysique, c'est la relation. C'est le lieu de rencontre. Relation de raison, relation réelle. Et ils sont un dans la relation. La logique et la métaphysique sont une dans la relation. Alors on comprend très bien qu'on arrive à les confondre. Et qu'il y a un poids d'amour très particulier pour la logique. Parce que la logique, vous la faites. C'est votre petit enfant. Il n'est pas très vivant, mais ça ne veut rien. N'importe peu. Il vient de moi, c'est l'essentiel. C'est la relation. La relation de raison, l'universel. Vous voyez, c'est très important de comprendre ça. Parce que ce sera par la relation que vous pourrez toujours rejoindre les idéalistes. Il y a un point de contact. On rejoint quelqu'un en saisissant le point de contact. Vous n'allez pas saisir les idéalistes par la substance. Impossible. D'ailleurs, par la relation, oui. C'est pour ça que c'est si important, la relation, au point de vue philosophique. Puisque les deux grandes perspectives du développement philosophique, c'est une philosophie idéaliste et une philosophie réaliste. Or, la relation me met en face des deux grandes orientations. La relation réelle conduit à la substance, la relation de raison conduit au primat de la pensée. Donc les deux enracinements sont extrêmement importants. Comme nous allons voir, toute relation implique un fondement. La relation réelle se fonde sur la qualité. La qualité me conduit à la substance. La relation de raison se fonde sur la pensée, le cogito. Je cogite, je pense. Et parce que je cogite, je pense, je forme des relations. Et donc c'est bien là, dans le domaine de la relation, qu'il y ait un partage des eaux. C'est toujours très important de voir où se fait ce partage des eaux. C'est dans la relation. Donc vous voyez que dans le domaine humain, dans le domaine de l'éthique, l'amitié est une relation. C'est pour ça que c'est si fragile. L'amitié est une relation. Et c'est vrai, c'est une relation, l'amitié. La présence, c'est une relation. Des quantités de choses qui se définissent par la relation. Et des quantités de choses impliquent des relations. En plus, le travail implique une relation. N'identifiez pas le travail et la relation. Et c'est une relation. Je suis relié au bois que je travaille. Je suis relié à mon patient. Le médecin qui travaille, son patient, il est relié à lui. Il est en relation vis-à-vis de lui. Ça fait partie de ses relations. Vous voyez, dans l'ordre humain, la relation, elle est partout. L'amitié, la contemplation implique aussi une relation. Le péché, la faute, implique une rupture de relation. C'est une rupture de relation. La vie commune est un tissu de relations. Un tissu de relations. Alors ça peut être un panier de crabes, ou ça peut être au contraire un amour merveilleux. Panier de crabes, un tissu de relations. Et qu'on met dans un panier des crabes, vous verrez ce que c'est. On cherche partout à se piquer, à se prendre possession de l'autre, panier de crabes. Et au contraire, dans la charité fraternelle, c'est l'offrande et le service. On est tout entier relatif à l'autre pour l'aimer, en l'aimant. On est tout entier relatif à l'autre pour le servir. Des deux côtés, c'est la relation. Comme c'est curieux. Puis alors vous avez, il ne faut pas l'oublier, nous allons le voir, vous avez des philosophies qui sont des philosophies de la relation. La philosophie grecque est une philosophie de la substance. Alors parce que la philosophie grecque est une philosophie de la substance, vous avez une logique de l'attribution. Lorsque vous perdez le sens de la substance et qu'à la place de la substance vous mettez la relation, vous avez une logique mathématique. Et comme c'est important de saisir ce que c'est que la relation pour comprendre, la logique mathématique repose sur la relation. La logique classique d'Aristote repose sur la substance. Or, de fait, l'hégélianisme a énervé, au sens le plus propre, la substance, pour tomber dans la substantialité et faire qu'au fond, la substance n'existe plus. La dialectique, c'est l'ennemi numéro un de la substance. Et c'est l'allié numéro un de la relation. Vous ne pouvez penser la dialectique qu'au niveau de la relation. Vous ne pouvez pas la penser au niveau de la substance. Et ceci, l'histoire nous montre bien. Un néo-hégélien comme Hamelin, qui est un bon néo-hégélien, un matheux. Hamelin dit qu'au cœur de toute la philosophie, c'est la relation. Pour lui, la substance n'existe plus. La substance, c'est un X inconnaissable. Il identifie substance et sujet. Donc la substance n'existe plus. La seule chose qui est importante à saisir, c'est la relation. Et la relation est au cœur de toute sa philosophie. La relation remplace la substance. Lui, il le dit, mais des quantités d'autres ne le disent pas et agissent comme ça. À la place de la substance, c'est la relation. Et c'est pour ça que pour Merleau-Ponty, le premier Merleau-Ponty, le Merleau-Ponty, disciple de Husserl, Merleau-Ponty dit que l'être, c'est un tissu de relations. Mais c'est la communauté. L'être, c'est un tissu de relations. Donc au cœur de l'être, c'est la relation. Comme pour Hamelin. Et on arrive jusqu'à définir la personne qui anciennement se définissait par la substance, la définir comme un sujet de relation. Le noyau de toutes les relations. C'est ça la personne. Et vous dites que la personne, c'est le lieu de la communication. La personne se définit dans sa capacité de relation, dans sa capacité de communication. Une personne est d'autant plus importante que ses relations sont nombreuses. Vous voyez, vous arrivez à une philosophie mondaine. Puisque c'est ça, au point de vue du monde, c'est le point de vue des relations. C'est extraordinaire de voir que la relation, qui est dans une philosophie comme Aristote, nous allons le voir, et l'être le plus débile, cet être le plus débile, va se venger, si j'ose dire, pour devenir le centre. On pourrait se demander, vous voyez, si la dialectique du maître et de l'esclave n'est pas applicable au plan métaphysique entre la substance et la relation. Faites cela, parce que ça c'est important et c'est intéressant à voir. Et la relation, le maître et l'esclave. Vous savez bien que dans la dialectique du maître et de l'esclave, c'est l'opposition. Tout ce que le maître prend, il le prend à l'esclave, et au bout d'un certain temps, l'esclave ne peut plus le supporter, et il se venge, il se met à la place du maître. Eh bien, il y a une histoire de la philosophie et de la pensée qui est comme ça. La relation est totalement au service de la substance. La relation en a par-dessus la tête d'être l'être le plus débile. Et la relation s'empare de la substance et se met à sa place. Vous voyez comme ça, intéressant de faire l'histoire de la philosophie comme ça. Et vous verriez que c'est comme ça que ça aboutit. Vous avez Hamelin, vous avez Aristote. Vous avez Hegel, vous avez Aristote, les deux grands. Et en se regardant, ils disent, nous avons toute la philosophie. Ou la philosophie de la substance, ou la philosophie de la relation. C'est pour ça que c'est très important, vous voyez. Si j'étais hegelien, j'aurais commencé le cours par la relation. Pour comprendre un tout petit peu ce que c'est que la dialectique. La dialectique, c'est une relation. Relation extraordinairement intéressante, mais c'est une relation. Pas autre chose que ça. C'est extraordinaire de voir ça. Évidemment, c'est pas la relation aristotélicienne. C'est l'esclave qui a pris la place du maître. Mais c'est toujours l'esclave. qui a pris la place du maître, qui a usurpé la place du maître. Et quand la relation usurpe la place de la substance, c'est la dialectique. Vous ne pouvez plus penser que dialectiquement. Donc, c'est important de voir objectivement la place de la relation. Ça tient une place énorme dans notre vie. Et de voir comment, au plan philosophique, la relation a pris de fait une place extraordinairement importante. Or, la relation, je vous ai dit, c'est l'éclatement de l'être. Une philosophie qui commence par la relation, c'est une philosophie qui est en face de l'éclatement de l'être. Vous n'avez plus que des miettes. Des miettes très précieuses, c'est évident. Des miettes extrêmement intéressantes, mais c'est plus que des miettes. Alors, nous allons essayer d'entrer dans ce grand problème de la relation. C'est vraiment un très grand problème. Et très intéressant. Ça fait comprendre des tas de choses, la relation. Si vous entrez dans la relation, vous comprenez beaucoup mieux ce que c'est que le réalisme. Et vous comprenez beaucoup mieux ce que c'est que l'idéalisme. Là, vous pouvez regarder les deux. Et vous entrez un peu dans l'hégélianisme. C'est par là qu'on doit y entrer. Alors, on va d'abord faire comme de coutume, même si c'est un peu fatigant pour vous, c'est quand même très important de faire une petite topique historique où je vais être assez bref. Regardez les premiers philosophes de la substance. Et regardez les premiers philosophes de la relation. 1, 2, 1. Vous voyez bien. Si vous êtes philosophe de la relation, de la substance, vous pouvez respecter la relation, mais en la mettant à sa place. Tu es extrêmement utile. Mais tu es un pauvre petit être débile. Mais tu es d'une utilité merveilleuse. J'ai toujours besoin de toi. C'est ce que dit la substance au relatif. J'ai toujours besoin de toi. Tout le temps, tout le temps. Si tu veux bien être à mon service, tu ne t'ennuieras jamais. Parce que tu seras mis à toutes les sauces. À toutes les sauces, j'aurai besoin de toi. Et même, quelquefois, je t'appellerai relation transcendantale. Donc, je te donnerai un galon de général, relation transcendantale. Tu transcendes tout. Vous voyez, c'est un peu, la relation, c'est un peu la clé qui nous permet de passer à travers tout, passe-partout. C'est extraordinaire. Mais tu es l'être le plus débile. Il ne faut surtout pas t'enorgueillir. Si au contraire, la relation a pris la place de la substance, il n'y a plus de substance. Chez Hamelin, chez Hegel, il n'y a plus de substance. Chez Merleau-Ponty, premier type Merleau-Ponty, il n'y a plus de substance. Quand la relation est première, plus de substance. Quand la substance est première, on demande à la relation tous les services. La bonne à tout faire. Absolument. L'ouvrier qui est bon à tout faire, fait tout. La relation fait tout. De façon étonnante. La logique est un tissu de relation. Pas de substance dans la logique. Tissu de relation, l'universel. Vous voyez, tout de suite triple. Et vous voyez tout de suite l'universel, 5 modalités de l'universel. Le genre, différents spécifiques, espèces, propres, accident, cinq modalités de l'universel. Et comme il est triple, 5 fois 3, 15. L'universel, 15 relations dans l'universel. C'est fou. 15. Et c'est la pièce fondamentale de la logique. La substance, elle est une. Et le relatif, je ne dis pas engendre, parce que je crois qu'il n'y a pas de fécondité. La substance est féconde. La relation ne l'est pas. Elle fait semblant. Alors, elle fait semblant. Cherchez de voir ce que ça fait, faire semblant d'être fécond. C'est de faire beaucoup de bruit. La féconde.